veut dire rythme et poésie.
Le Beatnik Show.
Le show de rap avec le meilleur flow.
À Chiz 94.3, le lundi à 20h30.
Lundi 20h30.
Avec votre animateur, Nicolas Leclerc. Pour du bon hip-hop québécois, t'as pas le choix. C'est le Beatnik Show.
Merci, c'est le Beatnik Show.
Sur une distance de 20 mètres, la coupe Vanier au bout du pied.
C'est le ballon! Balle frappée solidement par White du côté gauche. Ouais. Circuit! Les Capitales qui reprennent les devants.
Pour ton sport local, écoute Chiz 94.3.
Cinéma, showbiz, les nouvelles internationales et surtout la bonne musique tropicale. Samedi, dimanche, 13h, Radio Futura 94.3 FM, Québec, Canada. Partout au monde, www.chiz.ca. Digan lo que digan, somos la numéro uno.
Okay, attention. 1, 2, 3.
Ça serait étonnant, fait que ben bienvenue tout le monde. J'espère que vous allez bien. Rebienvenue à votre émission d'actualité internationale chez le voisin, l'antenne de Chiz 94.3. Nous, on se faisait notre topo santé juste avant ça. Puis tu sais, je veux dire. Santé. Aujourd'hui, c'est un peu plate. Là. Vous pouvez pas courir et tout. Là. Puis c'est vrai, ça a l'air niaiseux. Je voulais peut-être revenir là-dessus. Là. Tant qu'à faire local un petit peu puis à jaser d'affaires pas importantes avant de sauter dans le vif du sujet. Parlant de vif du sujet, très rapidement, on a tenu notre promesse du mieux possible, je pense. Seb, on vous avait dit qu'on allait être un peu plus feel good aujourd'hui. Puis quand je dis feel good, c'est pas feel good niais, naïf et tout. Il y a des nouvelles importantes. Puis on n'est pas allé dans le « Ah, il y a un petit chien qui a été sauvé. C'est bien, bien cute. » C'est des nouvelles internationales quand même, d'envergure pour la plupart, qui ont des liens même parfois avec ce qu'on vous a parlé les autres semaines. Sauf que on va moins vous parler des 14 décès qu'il y a eu dans telle affaire et ainsi de suite. Tu sais, je veux dire, il y en a eu cette semaine. Puis Seb, je sais pas pourquoi, si c'était le défi ou quoi que ce soit, mais j'y voyais toutes ces nouvelles-là. J'étais comme tabarouette. Il me semble qu'il y a juste de ça. C'est difficile de sortir du carquois de il y a eu telle mort, il y a eu tel mort où, il y a eu une telle quantité, il y a eu une éruption volcanique en République démocratique du Congo. J'étais comme, ben là, vous m'aidez pas, actualité internationale. Faites de quoi, s'il vous plaît. Là, j'essaie d'avoir une émission qui a de l'allure tout en étant pas trop morbide. Puis là, j'étais comme, ben, il y a juste de ça, des 200, des 14, une personne par-ci, une fusillade par-là. J'étais comme, non. Ça se peut pas. Mais finalement, je pense que l'exercice est réussi. Je sais pas si ton côté, le lien entre exercice et ce qu'on parlait est un peu tiré par les cheveux. Là. C'est un exercice intellectuel cette fois, mais bon, en tout cas, de mon côté, c'était correct. Je sais pas si ça a été difficile du tien. Là.
Ça n'a pas été difficile. C'est sûr qu'il faut que tu sois un petit peu plus attentif. Mais tu sais, je pense que quand tu cherches quelque chose, ben, versus quelque chose d'autre que tu es habitué de voir et de parler d'eux. Évidemment, tu vois plus les nouvelles que... Tu sais, moi, j'en voyais, je me disais, ah, tu sais, genre, en temps normal, j'aurais parlé de ça. Ah, en temps normal, j'aurais parlé de ça. Mais ça reste que le défi, entre guillemets, est intéressant, si on veut. On parle... Tu sais, moi, j'en ai une nouvelle qui est un petit peu mortifère, si on veut, donc qui parle de mort. Mais ça reste qu'à quelque part...
T'as retrouvé ça, puis je pense... Je pense que je sais exactement c'est laquelle. Je sais pas si tu veux commencer par celle-là, parce qu'effectivement, elle est, tu l'as dit, un peu morbide et tout, mais servirait à la coquetterie assez cocasse. Là, je veux pas dire coquet, mais cocasse.
Je peux commencer avec ça. C'est-à-dire que je me suis basé un petit peu sur le principe, puis là, l'analogie est imparfaite, mais disons que dans mon corps, j'ai deux virus qui se combattent, ben somme toute, au final, c'est positif. T'sais, c'est-à-dire qu'ils se combattent, puis s'entretuent. C'est mieux que des bonnes globules se combattent versus un virus. Ben, t'sais, il va y avoir des morts dans les bonnes globules, fait que je préfère que deux virus se battent à la limite. Puis là, ben l'analogie est un peu tirée par les cheveux, comme j'ai mentionné, mais c'était au Nigeria. Au Nigeria, bon, je répète que j'ai hésité à la classer comme bonne nouvelle, mais l'État islamique est engagé dans une lutte à la mort face à Boko Haram est son chef.
Ouais, là, il va falloir que tu expliques parce que comment tu as viré ça en bonne nouvelle. Parce que quand tu m'avais dit ça en message vocal, je me rappelle, j'étais comme, ben, attends,
ben, c'est-à-dire que c'est deux, entre guillemets, mauvais qui s'entretuent les deux. Fait que c'est sûr qu'on est plus habitué d'entendre, exemple, que l'armée du Nigeria combat Boko Haram dans la forêt ou l'État islamique fait un attentat ou l'État islamique combat les forces whatever congolaises, disons. Mais là, il s'entretue entre les deux. Fait qu'à la limite, ça fait moins de méchants. Fait que là, c'est Abou Bakar Shekou, qui est le leader du groupe Boko Haram, que pour ceux qui connaissent peut-être un peu Boko Haram, mais assurément que vous connaissez le personnage, c'est-à-dire qu'il a souvent été photographié, puis c'est lui qui, à la base, était responsable, je peux utiliser le terme, de l'enlèvement des écolières qu'il y avait eu au Nigeria. Donc, lui aurait tenté de se suicider même pour ne pas être capturé par la filiale locale de l'État islamique. Puis les médias nigériens y ont annoncé son décès. Par contre, c'est pas la première fois qu'il est donné pour mort. Ça fait plus que 3 fois que les médias l'ont déclaré mort. Alors, est-ce que cette fois-ci, il est réellement décédé comme l'annonce la plupart des médias nigériens? À suivre. Mais ça reste que l'État islamique est en train de prendre le contrôle de la forêt Sambisa, qui est une forêt quand même assez connue dans le nord-est du pays, qui est le bastion de la faction de Boko Haram, qui est dirigée par Abou Bakar Shekou, dans l'État de Borno, dans le nord-est du Nigeria. Puis mercredi le 19 mai, il y a au moins 50 véhicules de l'armée État islamique qui auraient pénétré dans le vaste réseau boisé où est-ce que le groupe de Shekou est établi sur son quartier général depuis plusieurs années. Ils ont acculé le chef, il y a eu des combats avec évidemment, je veux dire, tout leur arsenal, puis au lieu de vouloir se faire capturer, il a voulu se suicider. Bon, je veux dire, si on remonte un petit peu dans le passé, puis la preuve que les meilleurs amis sont aussi les meilleurs ennemis, parce que le chef de Boko Haram, il avait voulu créer son émirat en 2014. Puis, vu que ça avait échoué, il avait fait une allégeance avec l'État islamique en 2015, donc c'est des anciens amis. Mais pour des raisons de divergence profonde, il s'était fait défaire de son poste de commandement l'année passée. Fait que c'est ma première drôle de bonne nouvelle, qui en est une un peu... évidemment, ça dépend de qui l'a dit. Je la gardais un peu pour
ben,
la
normalement,
fin.
Mais normalement, nos auditeurs ne font pas partie de l'État islamique ou de Boko Haram.
Ben,
on vous encourage fortement à ne pas l'être. Donc,
pas,
c'est une bonne nouvelle.
Vous n'êtes pas une cellule dormante de l'État islamique à l'Université Laval. Donc, voilà. C'est une bonne nouvelle. Au Nigeria, l'État islamique combat Boko Haram. Puis au final, s'ils peuvent tous s'entretuer, ben Ça sera moins de travail pour les forces de l'ordre nigériane. Ils ont déjà assez de problèmes, il y a déjà eu assez d'attentats. Tu sais, Boko Haram puis l'État islamique sont vraiment connus pour leur manière de faire, là, ne serait-ce que horrible par rapport à certaines manières de perpétrer leur idéologie. Fait que garde. Au final.
C'est ça, dans ce pays-là, en particulier, tu sais, les prises d'otages, il y en avait eu plusieurs. Les écoles de femmes, je pense que c'était Boko Haram qui avait eu beaucoup d'attentats comme ça. Tu sais, c'est pas nouveau, mais c'est intéressant comme nouvelle dans le sens où, tu sais, on pense toujours au monde terroriste comme étant un genre de monde uni où c'est le fameux groupuscule qui a plein de branches et tout, puis ils s'aiment tous, puis ils sont tous contre les Américains, tu sais. C'est beaucoup plus complexe que ça. Il y a des tensions internes. L'État islamique et Boko Haram, vous l'avez vu, c'est pas du tout les mêmes intentions qui ont, puis carrément, c'est des ennemis, littéralement. T'sais, on n'y pense pas, mais c'est plus complexe que juste le gouvernement contre un groupe terroriste. Les groupes terroristes ont des intérêts particuliers et chacun d'entre eux vont se taper dessus à un moment donné si leurs intérêts se chevauchent pas, puis sont divergents dans le fond. Donc oui,
clairement.
Ça montre que la diplomatie, c'est pas juste entre pays, c'est carrément aussi entre groupuscules mafieux, terroristes, criminels, ainsi de suite. Donc, c'est plus complexe qu'on peut le penser une fois de
temps. C'est plus complexe
qu'on
peut le penser, puis il y a vraiment eu beaucoup d'exemples à travers les années. Là. C'est-à-dire que l'État islamique a souvent combattu contre Al-Qaïda. Je veux dire, ils ont un dénominateur commun dans leurs ennemis, mais ça fait pas forcément eux autres des amis. Ils ont voulu joindre leurs forces à plusieurs reprises, puis je crois que des fois, ça l'a marché. Mais aussi, comme dans le cas présent, quand il y a des grosses divergences, ne serait-ce qu'idéologiques, mais aussi dans la manière d'agir, puis probablement aussi selon certains principes, là, ben on voit que des fois, ça peut créer des divergences, puis voilà, on en est où est-ce qu'on en est.
Voilà. Pour ma part, je vais revenir sur une nouvelle dont je vous avais parlé, je pense, la semaine passée seulement. Et j'avais bien ri. J'avais rigolé un peu de la manière plutôt forte. La Chine, vous savez, la Chine est assez intense là, au niveau de sa réponse contre le coronavirus. La COVID, pour elle, c'est tout ou rien. Hein? Puis pour la plupart du temps, c'est tout. Dans le cas de la Chine, là, on met toutes les mesures qu'on peut. Puis je t'avais parlé, Sébastien, puis à vous aussi, de la mesure un peu rocambolesque de fermer le mont Everest du côté chinois et carrément de faire une démarcation au sommet de l'Everest. Là, c'est le plus haut mont au monde. Puis tout d'un coup, la Chine fait comme, ben oui, on va le monter puis on va faire une ligne. Il n'y a pas un chat qui franchit notre côté du mont Everest. Puis la cause, tu sais, il y a eu des tensions entre l'Inde puis la Chine, Pakistan, la Chine aussi, tu sais, le Cachemire et tout, toute cette région-là, c'est très convoité par tous les pays régionaux, les puissances régionales, je veux dire, peut-être plus, parce qu'il y a d'autres pays dans le coin, mais ils sont moins importants. Puis la Chine a mis son pied à terre, ça fait longtemps, sauf que là, c'était pas du tout un conflit territorial, c'est juste qu'on voulait empêcher les fameux touristes du mont Everest de franchir le côté chinois pour peut-être transmettre la maladie à des Sherpas locaux, ainsi de suite. Moi, j'avais bien ri un peu de ça. Je m'étais dit, c'est un peu extrême, faire une ligne, blablabla, tu sais, aller au sommet du Mont Everest, ça va-tu vraiment, tu sais, arriver? En plus, c'est des petits groupes, là, relativement. Là, je pense qu'il y a eu, ce que j'ai lu, c'est un peu plus de 400 permissions de monter le Mont Everest depuis que ça a rouvert, parce qu'il avait fermé un petit moment lorsque la pandémie s'était déclarée. Là, ça a rouvert, puis depuis, c'est seulement un peu plus de 400 personnes, 400 touristes là, de l'extérieur. Il y a des Sherpas et des aides et tout là, qui sont pas inclus dans ce chiffre-là. Mais malgré tout, 400 touristes, c'est quoi? C'est rien. Là. 400 touristes, je pense que tu as plus de monde qui vont visiter Montréal en une fin de semaine que le monde qui monte le Mont Everest en toute la saison qu'il y a eu à date. Fait que, tu sais, pour vous donner une idée, c'est pas grand-chose. Fait que je m'étais dit, c'est un peu extrême. J'avais lancé cette nouvelle-là un peu à la blague. Puis, comme de fait, je voulais m'excuser au gouvernement chinois. Je sais pas si ça se fait. Les mesures extrêmes ont parfois des raisons qui ont l'air loufoques, mais qui le sont pas. Finalement, un groupe de touristes de plus de 100 personnes, c'est entre 100 et 200 personnes qui sont déclarées positives à la COVID-19. Et là, j'étais genre, ben là, je viens de me faire avoir en sacrament. Et oui, il y a des contaminations même au sommet de l'Everest. Puis c'est justement le fait que, je présume, tu sais, c'est pas mentionné. Est-ce que, ben déjà, il n'y avait pas beaucoup de kits de testing sur place, fait que c'était difficile de savoir qui l'était, qui l'était pas avant de partir, puis pendant le voyage, s'il y avait des transmissions, ainsi de suite. Puis comme de fait, c'est un Autrichien là, qui a cancellé puis qui a un peu amené ça à l'avant-scène puis qui a dit « Ben non, nous on cancelle, il y a eu déjà deux cas, puis là ça s'est propagé, ainsi de suite. » Puis là, c'est entre 100 et 200 cas. Puis seulement pour ça, c'est, je pense, un voyage, là, dans le fond. Il y a quelques Sherpas, mais c'est surtout les touristes qui sont infectés. Donc, comme quoi, ben la Chine avait peut-être raison de fermer, d'être sévère sur son côté, en tout cas, de l'Everest, puis de dire « Non, il n'y a pas un chat qui traverse, ça peut mener à des contaminations. » Puis comme de fait, oui, c'est arrivé. Puis c'est ça, je pense que, tu sais, je t'en avais parlé au début de l'émission, mais l'Everest, là, on se dit, tu sais, il y a tellement pas beaucoup de monde déjà. Quelques centaines de touristes, c'est pas beaucoup à l'échelle internationale. Tu sais, on se dit, c'est des petits villages, c'est pas urbain du tout, il fait froid. Est-ce que c'est des conditions propices, peut-être, je veux dire, à la contamination, tu sais? Est-ce que le virus va survivre juste ça? Puis Sébastien a apporté un bon point, tu sais, quand tu vas sur l'Everest, ben t'es chaud, tes campements, tout le monde est rapproché et tout. Tu sais, veux, veux pas, il y a des contacts humains malgré tout. Puis est-ce que le monde porte leur masque en haut de l'Everest? Ça, c'est une autre affaire. Tu sais, déjà que l'oxygène se fait rare, t'es loin des autorités. Peut-être que tu te dis, tu sais, je peux me permettre de pas mettre un masque puis de respecter un peu moins la distanciation sociale. Puis comme de fait, clac, une mini-épidémie au sommet de l'Everest qui montre que, ben finalement, la Chine, oui, elle est sévère, mais elle avait finalement des raisons. Puis c'est peut-être ça aussi, tu sais, c'est qu'on on dirait qu'on donne des raisons à la Chine, tu sais, à l'air niaiseuse. Puis là, après, ben le monde ne font pas attention puis ils donnent raison, tu sais, au régime super autoritaire de l'autre côté. C'est comme, ben OK, bravo la Chine. Il faut croire qu'il y a du monde niaiseux, effectivement. Puis je pense que, tu sais, c'est peut-être pas niaiseux, mais un peu insouciant dans le sens où, justement, tu te dis tu vas le monter l'Everest. Là. C'est quoi le plus gros danger? C'est de mourir au sommet de l'Everest d'hypothermie ou d'une chute mortelle. Tu sais, le coronavirus, tu le laisses de côté puis tu te dis, pff, ça, là, c'est pas la cause de mortalité première en haute l'Everest. Puis comme de fait, ben plein de monde qui sont infectés à cause de ça. J'espère qu'il va y avoir personne de mort. Puis c'est pour ça que je le dis, il n'y a pas eu encore de décès qui ont été recensés de ce côté-là. Mais quand même, c'est comme un peu plate. Puis là, j'ai comme... On dirait qu'il faut que je m'excuse au gouvernement chinois chinois. C'est comme entre guillemets. Là.
Mais persuadé que le Parti communiste chinois est très complaisant. Puis si jamais écoute, on dit un beau bonjour à Xi Jinping.
Voilà.
Mais tu sais, clairement, imagine que tu réussis à monter l'Everest, l'apothéose de tout effort physique, puis qu'au final, tu pognes la COVID, puis tu meurs de la COVID.
Ça serait
comme chien un peu. Là,
ça serait push, là. Ça serait anti-climactique, comme on dit en
c'est
anglais.
C'est ça. Puis ben, par rapport au masque, ben, je présume par contre qu'ils mettent un genre de cache-col. Là. Il fait frais en sacrement.
Tu te rappelles-tu, le gouvernement du Québec disait les foulards et tout, ça ne compte pas comme un masque.
Peut-être
c'est pas aussi
que
efficace.
Si ont écouté Arruda, ils ont peut-être dit, garde, Arruda l'a dit, en haut de l'Everest, on ne porte pas de foulard.
C'est ça, mais il faudrait porter un masque. C'est un ou l'autre. C'est plus ce qu'Arruda avait dit. C'est-à-dire, il disait le foulard, ça ne sert pas à grand-chose. Si vous voulez vraiment empêcher le coronavirus, mettez un masque. Puis, effectivement, peut-être qu'il y en a qui ne l'ont pas pris au pied de la lettre. Puis, peut-être qu'ils n'ont pas tous des Arruda, hein, les touristes qui sont partis là-bas. Fait que peut-être qu'il n'y avait pas ces judicieux conseils de notre ministre, de notre médecin en chef, puis de nos ministres, ainsi de suite. Fait que bon, je voulais juste rappeler ça comme quoi, tout peut avoir l'air ridicule à l'échelle internationale. Mais parfois, faut laisser nos jugements de côté. Puis clairement, mon jugement a pris le dessus. Et regardez, on vient de me prouver le contraire.
Parce que ces Chinois-là, des fois sont durs à cerner. Tu sais, je vais m'écarter un peu du sujet, mais tu sais, je rappelle que la COVID, on n'a plus jamais entendu parler en Chine. Tu sais, c'est-à-dire qu'eux autres, là, il n'y a pas eu ça. Là. Ben, en tout cas, présumément, là, il n'y a pas eu de deuxième, troisième, quatrième vague. Là, tu as eu la vague 1. Ça part de là. Il y a du monde qui pogne la COVID, Wuhan, Hubei, Hawaii.
Ben, je pense que
après
Wuhan
ça,
et quelques autres, il y a eu une deuxième vague
oui,
un petit peu. Là,
on avait parlé un petit peu d'une petite résurgence. Mais tu sais, ça reste qu'on parle du pays le plus populeux dans le monde. Puis on voit présentement comment que ça rattrape les pays où est-ce que les gouvernements ont eu une certaine incurie, exemple en Inde.
Ou au Japon, tu sais, juste
Japon.
Le Japon avec la vaccination.
Là, on
qui...
voit, paf, ça pète. On sait que le vaccin, le Sinovac, le Sinopharm ont été démontrés que sont efficaces. Ish, là, c'est-à-dire qu'à genre 5, il y en a un des deux qui est à genre 50,4%, l'autre est à genre 78%.
Ouais, je ne peux pas dire n'importe quoi. Il y en a un qui est un peu plus efficace que l'AstraZeneca. Je pense que c'est le Sinopharm. Puis le Sinovac, lui, qui est un tout petit peu plus efficace que
ça. Il y en a un là, qui est flush ça, avec la limite. Là, la limite que d'acceptation pour l'OMS, c'est 50,4%, c'est 50% de taux d'efficacité. Puis il était genre là, 50,4%. Puis je sais, entre le Sinovac et le Sinopharm, je sais qu'il y en a un qui est une entreprise publique. Puis un qui est une entreprise privée. Bon, évidemment, entreprise privée là-bas est là-bas et indirectement contrôlée probablement par le Parti communiste chinois. Mais ça reste que on n'a jamais vraiment plus entendu parler. Puis tu sais, il n'y a même pas de rapport. T'sais. Des fois, dans les pays où est-ce que qui essaient de le cacher, il y a souvent un genre de rapport qui sort qui dit « Hey, tu sais, les chiffres à la morde puis les crématoriums, ça marche juste pas. Les crématoriums sont à côté, on manque de monde, on enterre le monde autour de la ville, etc. » Puis là, on l'a entendu parler au début, mais là, on n'entend pas vraiment parler. Fait que est-ce que leur capacité à être un régime autoritaire puis à tant juguler quelque chose, tu sais, là-bas, on a déjà parlé souvent, là, mais tu sais, là-bas, un confinement, c'est pas pareil qu'ici, là. C'est pas genre être un avertissement si t'es pas chez vous à 8 heures. Là. Là-bas, si t'es pas chez vous à 8 heures, on saute ta porte puis tu restes chez vous.
Puis aussi, ben, tu sais, il y a le fait que même si les vaccins sont pas efficaces, on se rappelle qu'ils forçaient la vaccination. Ils forçaient carrément, là, sur. T'étais appelé, t'étais genre, t'es citoyen de telle ville, ben, aujourd'hui, les 3 millions vont se faire vacciner puis t'as pas vraiment le choix. Fait que, tu sais, même si ça marche à 50% sur 3 millions, 1,5 qui sont immunisés. Fait que, tu sais, c'est ça la différence aussi. Tu sais, ici, c'est tout volontaire et tout. Fait que si t'as 75% de personnes vaccinées à 90 au maximum qui sont immunisées avec le taux de fonctionnement, je sais pas comment dire ça, là, mais taux d'efficacité des vaccins, fait que, tu sais, ça baisse rapidement. Tandis que là-bas, veux pas, tu sais, 1,4 milliard de personnes, si tous ont pris le vaccin le moins efficace, puis c'est pas vrai, on le sait maintenant qu'il y en a qui ont pris le vaccin qui est presque 80, tu sais, l'immunisation collective, elle se fait relativement rapidement, mais à coup de ta liberté, là, t'as pas le choix. Tu vas te faire vacciner, puis c'est ça qui est ça, puis tu passes à autre chose, parce que si tu te fais pas, ben t'as le choix entre ça ou t'es un Ouïghour.
T'es un Ouïghour, puis on va te rééduquer pour pas que tu sois un Ouïghour.
Voilà,
puis tu te souviens-tu, genre, quasiment au début, quand il avait construit un hôpital, hein, genre là, une semaine, il avait construit un hôpital au complet, puis nous autres, on parle du troisième lien, on va en 10 ans. Là, bon, c'est pas la fin.
C'est pas
la fin,
mais quand même.
Ben, regarde, je vais rester un petit peu par rapport à la Chine, puis là, je vais faire une espèce de tergiversation vers ma prochaine nouvelle parce que, comme les dernières semaines, puis comme j'ai dit que je ferais un petit peu, je vais parler de crypto-monnaie. Puis pourquoi la Chine est pertinente présentement? Ben c'est parce que la crypto-monnaie a chuté la semaine passée, plus ou moins 30%, perdu 500 milliards d'accumulation d'argent. Puis indirectement, une des raisons pour ça, si on met à part Elon Musk, que je pourrais expliquer si quelqu'un veut que je l'explique, là, appelez-nous. Mais une des raisons, c'est parce que la Banque de Chine, elle a restatué que les banques ne peuvent pas accepter la crypto-monnaie comme paiement. Parce qu'on sait bien que le Parti communiste chinois n'aime pas l'anonymat. On sait bien que le Parti communiste chinois veut garder, évidemment, un contrôle sur toutes les devises et sur l'argent qui se transige. Donc, ils ont juste restatué. Pourquoi je dis restatué? C'est parce qu'en 2017, ça avait été une des prémices de l'effondrement du Bitcoin, de la crypto-monnaie. C'était que la Chine avait décidé de bannir tout ou un certain nombre de plateformes d'échange. Puis, ils avaient statué. Puis là, ils l'ont juste redit. Ça, combiné à Elon Musk qui dit, bon, même si le Bitcoin n'a pas changé depuis que Tesla en a acheté, les fondamentaux sont pareils, mais Elon Musk a dit, ah ouais, tu sais, finalement, garde, on acceptera plus que les gens achètent une Tesla avec du Bitcoin. Parce qu'on s'en souvient qu'en février, il avait dit Tesla a acheté 1,5 milliard de Bitcoin, puis on va accepter que les gens achètent une Tesla avec du Bitcoin. Mais tu sais, en somme, c'est un peu débile. Parce que comment tu peux payer pour une Tesla en Bitcoin quand tu as un actif qui est si volatile? Une journée, mon Bitcoin peut acheter une Tesla, le lendemain, ça en achète une moitié. Fait qu'évidemment, ça avait un peu par rapport. Enfin bref, il a dit, garde, là je suis plus sûr parce que le mining pour faire le proof of work qu'on appelle, là, vous chercherez c'est quoi proof of work, c'est quand même assez compliqué. Le mining demande autant d'énergie que certains pays, c'est énergivore, ça se fait beaucoup en Chine. En Chine, ils utilisent du charbon, fait ça chute. Mais la nouvelle par rapport à ça, c'est que l'Autriche, à travers tout ça, va émettre un timbre à l'effigie du Bitcoin. Un timbre de 12$. Les services de poste de l'Autriche vont surfer sur la vague de popularité du coin. Puis là, moi, je dis du coin. Là. Je sais qu'il y a des Québécois qui disent du coin, là, du bitcoin. J'entends ça des fois, puis je suis comme assommé à toutes les fois.
Je sais pas c'est qui, mais ça me fait mal au cœur juste d'entendre ça.
Ben, je vais dire du coin. Là. Fait qu'ils vont émettre un timbre à l'image d'une baleine et d'un chip sur lequel est stockée la fameuse blockchain. Mais là, vous me demandez, Sébastien, pourquoi une baleine? Je comprends pas. Mais la réponse à ça, c'est une référence assez caractéristique au Bitcoin qui représente les gens puis les entreprises qui sont propriétaires de la majorité du Bitcoin. Ça, c'est-à-dire que selon certains, 95% des Bitcoins seraient détenus par 2% des institutions ou des gens. Je donne un exemple. L'entreprise MicroStrategy, qui est cotée à la bourse, possède 92 000 Bitcoins. 92 000 genre 75, un chiffre, là, qui ont acheté en moyenne à 24 500$. Puis là, quand je parle d'argent, je parle en argent US là, par rapport au Bitcoin. Donc, eux pourraient être considérés comme une whales. Ça, c'est-à-dire que c'est des gens qui ont des énormes portefeuilles de Bitcoin, puis que pour un certain nombre d'investisseurs, ces gens-là vont présumer que c'est les whales qui vont un peu contrôler le marché. Évidemment, quand tu as quelqu'un qui vend et qui achète, ben qu'il y a des si grosses positions. Est-ce que Elon Musk en est un? T'sais, MicroStrategy en est clairement un. Tesla, dans une certaine mesure, peut en être devenu un, je veux dire, avec 1,4 milliard. Des fonds d'investissement, comme le fonds d'investissement à Cathie Arc, comme Digital Galaxy. Donc, c'est pour ça que le timbre qui va être émis par l'Autriche va avoir une baleine et une chip dessus. Puis, fait intéressant, c'est le troisième timbre à l'effigie de la crypto-monnaie que l'Autriche va émettre dans les trois dernières années. Les années précédentes, il y a eu des licornes qui font référence à l'Ethereum, puis des chiens qui font référence à l'infameux Doge, ce sacré chien, le Doge.
Puis tu m'avais parlé, en plus, la vague des chiens n'arrête pas. Il y a un Shiba Inu aussi qui existe en termes de cryptocurrency, crypto-monnaie. Fait que oui, ben je présume que l'avenir, c'est le chien qui va le dominer. Très hâte de voir si le Dogecoin va devenir comme la monnaie courante.
Parce que Parce que le Dodge, tu sais, j'en avais parlé un petit peu les dernières semaines. D'ailleurs, moi, pour full disclosure, moi, j'ai déjà eu du Dodge. Là. J'ai déjà été propriétaire de Dogecoin. Puis, Elon Musk, il arrête quand même pas avec. Hier, il a tweeté par rapport au Dogecoin. Hier, il a tweeté que, je reviens sur ce que j'avais dit par rapport à l'émission de carbone qui est occasionné par le mining de Bitcoin. Mais hier, il a dit « Hey, finalement, j'ai comme eu une rencontre avec les miners d'Amérique du Nord, puis il va y avoir un rapport qui va sortir à savoir si les miners pourraient pas plus utiliser de l'énergie renouvelable, puis à savoir où est-ce qu'on en est là-dedans avec des chiffres. » Puis juste après ça, il a tweeté « Hey, s'il y a du monde qui sont intéressés à participer au développement du Dogecoin, envoyez votre CV genre à cette adresse-là. » Fait que, tu sais, il lâche vraiment pas avec le Doge. Là. Hier, il a posté, il a aussi posté un genre de meme avec ce sacré chien, le Doge. Hein. Puis là, à savoir qu'est-ce qui va arriver avec le Doge, mais tu sais, ça reste que c'est uniquement un véhicule spéculatif, le Dogecoin. Il n'y a aucun protocole derrière. Là. Il n'y a rien derrière ça. C'est juste du spéculatif. Là. C'est-à-dire qu'il y a des coins là, qui sont par rapport à la finance décentralisée. Il y en a un qui s'appelle ICP, qui est The Internet Computer, qui est par rapport à tout vouloir refaire l'Internet au complet sur de la blockchain. Donc, exemple, ne plus être assujetti au cloud de Amazon. Parce que présentement, si tu es une entreprise puis tu veux aller sur un cloud comme toutes les entreprises Internet, mais il faut vraiment que tu aies genre sur le cloud d'Amazon, exemple. Puis ça fait qu'indirectement, tu es assujetti par la réglementation de Amazon. Puis le meilleur exemple, c'est qu'il y a eu ça pendant Trump. Trump, à travers les affaires qu'il y avait eu au Parlement, là, qu'il y avait eu la grosse attaque au Capitole, bien, il y avait un réseau social qui s'appelait Parler qui s'était fait bannir. Parce qu'eux autres, ils étaient trop vus comme des gens radicaux. Fait qu'Amazon, elle a dit « Ah, fuck off, vous autres, parlez, là, on vous mute, c'est fini, vous êtes plus sur notre cloud. » Parler, c'était fini, même s'ils sont revenus. Là. Mais ça reste qu'avec des réseaux sociaux sur la blockchain, mais tu peux plus faire ça.
C'est pour détruire les monopoles d'Internet, c'est un peu ça. Puis effectivement, Dogecoin, tu l'as dit, ça n'existe que pour ne pas exister. C'est-à-dire que si les gens décident que ça vaut cher une journée, ben ça va valoir cher. Puis si les gens décident que ça vaut pas cher, genre Elon Musk dit « c'est de la sauce, ce Dogecoin-là », ben ça va baisser. Il n'y a rien d'autre qui contribue à la valeur du Dogecoin, à part l'imaginaire collectif, si tu veux, à la limite. Là. Sujet intéressant, puis j'aime toujours que tu nous tiens au courant. Savoir que tu en as déjà eu, c'est encore plus drôle que tu sois si influençable, Sébastien. Je te croyais plus fort, man, que ça.
J'ai déjà eu du Shiba Inu aussi. j'ai eu du Shiba Inu, mais tu sais, c'était...
Sachant que t'as un chat, je suis un peu déçu que tu t'es investi.
Ah, mais j'avais un bulldog avant ça. Hein. J'avais un gros bulldog avant ça. Puis, bon, pour ceux qui... CrossFit Sainte-Foy, qui est mon travail, ben sur le logo, c'est un bulldog. Puis à la base, ça a été basé sur mon chien d'amour qui est maintenant au paradis, qui s'appelait Cujo, qui était un magnifique bulldog anglais.
C'est vraiment, là, je suis touché. Là, je suis comme, c'est bien une belle histoire. Finalement, on réussit notre fameuse feel-good story de la journée. Moi, je voulais finir sur cette première moitié d'émission sur quelque chose d'assez inusité. On a parlé d'exercice de CrossFit. Moi, je m'en vais dans quelque chose d'un peu plus serein et calme, si tu veux. Tu connais probablement le yoga. Bon, on est loin du CrossFit ou, je veux dire, du workout traditionnel, mais le yoga, tout le monde connaît ça. Ça connaît une popularité immense, surtout avec nous, fameux milléniaux. Mais bref, en Alabama, ça saviez-vous que c'était interdit dans les écoles d'enseigner le yoga depuis presque 30 ans, 1993 pour être exact, et finalement, ben c'est de retour, on a le droit d'enseigner, je veux dire le yoga, ce qui est un peu ridicule là, je veux dire, vous pensiez pas que ça pouvait être interdit, ben l'Alabama, vous la connaissez, super traditionnelle, ben le gouverneur Keith Ivey, un républicain donc, qui a accepté une motion d'un démocrate, c'est surprenant, faut dire que les républicains et les démocrates s'entendent sur quelque chose. Bon, aussi farfelu que le yoga, peut-être qu'il était temps qu'ils s'entendent sur quelque chose. Mais bref, la loi a été revisitée et on peut enseigner le yoga, donc dans les cours, tu sais, d'éducation physique et ainsi de suite, parce qu'on dit que c'est bon au niveau psychologique, mental, mais aussi physique pour la relaxation et ainsi de suite. Mais il y a quelques conditions, et là, je présume que c'est quelque chose de très culturel, ce qu'on avait peur. Puis ce qui était interdit, c'était vraiment, le yoga, là, c'est pas américain, c'est pas patriotique, tu sais. Fait que c'est des, tu sais, tu dis namasté, le fameux salut, c'est pas en anglais. Puis il y a plein de noms de pauses qui n'étaient pas en anglais. Ça venait chercher les républicains. Ben, gros compromis aujourd'hui. Ben, aujourd'hui, je veux dire cette semaine, c'est une nouvelle du 21 mai, ça. Ben, on va pouvoir enseigner le yoga tant que les mots sont remplacés par des noms en anglais. Donc, si vous voulez enseigner le yoga en Alabama, sachez seulement que vous devez éviter le namasté et compagnie et y aller pour un genre what's up dude puis des affaires comme ça. Ça va passer, le gouverneur, donc monsieur Ivy devrait être pas mal content de ce côté-là. Ça va faire son affaire. Les démocrates aussi sont contents de voir revenir ça sur les bancs d'école. Écoutez, une nouvelle un peu inusitée, mais l'Alabama ne cessera jamais de me surprendre dans ses lois farfelues chrétienne américaine, genre un peu traditionnaliste, c'est barre. Ça me fait toujours rire. T'sais, c'est proche, mais c'est un autre monde dans l'Alabama. Fait que,
ça
n'a
écoute... vraiment aucun sens. Ça a surtout aucun sens que de l'argent des contribuables serve à financer, entre guillemets, ces débats-là.
Ben oui, parce
que
je veux dire,
du temps
les
pour...
politiciens qui parlaient de ça, ils étaient payés pendant cette session-là. Ça a pris du temps de ça session parlementaire, tu sais, dans un sens. Il y a des lois qui ont été écrites, il y a des documents qui sont conservés. Puis ça, tu sais, je veux dire, ça a été fait en 93, mais là, c'est comme reparler de ça. C'est comme deux fois parler du yoga. Ça veut dire que...
Je sais comme pas comment tu défends ça par rapport à la liberté de religion, la liberté d'expression. Je sais pas c'est quoi les arguments qui vont donner raison, puis qui vont dire, ah, tu sais, tu peux bannir le mot namasté ou le mot, tu sais, peu importe lequel pose. Il va-tu avoir des positions de yoga qui vont être jugées trop sexuelles, puis là, tu vas dire, hey, là, tu vas te calmer, tu vas te pencher par en avant.
Ben, moi, ça m'a surpris que ce soit pas ça qui revienne. Tu sais, je me suis dit, l'Alabama, ils vont demander que les filles soient en robe de mariage pour faire du yoga, puis les gars en costard, tu sais, ça va être genre quelque chose de même. Là, je joue dans les gros clichés, là, vous comprenez, c'est de l'exagération. Mais non, c'était vraiment une affaire de nom, puis de quelque chose culturel et linguistique.
Je serais vraiment curieux dans ce cas-là de voir c'est quoi l'industrie pornographique en Alabama. Je veux dire, forcément, il y a...
Ça dévie vite dans ton
forcément,
esprit,
Forcément, dans tous les États, il y a de la production pornographique. Là, c'est pas spécifique à la ville de New York. Fait que, on dirait que je serais vraiment curieux de savoir qu'est-ce que M. Ivy pense de la production pornographique.
Je sais pas s'il sait que ça existe.
Puis je serais curieux de voir son historique, son historique d'Internet, M. Ivy.
S'il y en a du yoga sur son téléphone, je peux vous dire que ça va lui revenir d'en face. Écoutez, sur cette fin de première moitié assez étonnante, nous, on passe pour une petite pause publicitaire d'une minute et demie, puis on vous revient tout de suite après avec la suite de Chez le voisin à l'écoute de Chiz 94.3.
La Ville de Québec révèle des talents musicaux qui font maintenant la signature de la scène locale partout ailleurs. Quoi de plus logique que de dédier une émission complète à la découverte de ces artistes d'ici? Écoute locale, la playlist, c'est une émission d'une heure entièrement consacrée aux sorties musicales de la vieille capitale. Tous les lundis 14h sur les ondes de Chiz 94.3. C'est toujours mieux d'écouter local.
Durant quelques heures, les musiciens, les danseurs et les spectateurs ont vibré au même rythme.
Branche-toi sur l'art et la culture d'ici. Écoute local. Écoute Chiz 94.3.
The following program is disturbing.
Crash Crowd.
Mardi 20h.
Chiz 94.3.
Écoute!
Au Club Critique, on donne toujours notre 110%.
Cette tune-là fait clairement pas les ligues majeures.
On a la meilleure équipe.
Quand j'ai écouté ça, j'ai pogné un méchant 2 minutes pour interférent.
Au cœur de l'action,
j'ai plein de passes sur la palette. Je veux plus rien savoir de cet album-là.
Pour vous donner une information claire sur les nouveaux joueurs musicaux.
D'ailleurs, c'est le fondateur de ce groupe.
Des mises en échec jusqu'aux étoiles du match.
Tarsus-là, je la prends dans mon équipe demain matin.
Guillaume, Gabriel,
Émilie.
On va la mettre dans le net top corner.
Tous les mercredis, 13h.
T'es moins influençable si t'as de... C'est la conclusion qu'on se disait. On se parlait encore de crypto-monnaie. Puis si vous aviez eu du Shiba Inu, je considère personnellement, ça c'est de l'opinion, mais que vous êtes moins influençable que si vous achetez du Dogecoin, parce qu'on en a moins entendu parler du Shiba Inu.
Absolument. Puis moi, je peux expliquer en partie pourquoi j'avais un... Parce que ça a vraiment rapport aux nouvelles internationales. Pourquoi j'avais du Shiba Inu? Vitalik Buterin, c'est le fondateur de l'Ethereum. Puis lui, quand le Shiba Inu a été créé, il s'était fait donner des milliards et des milliards de quantités de coins Shiba Inu. Puis là, après ça, bien évidemment, parce que c'est un personnage méga influent dans le monde de la crypto-monnaie, vous irez voir, vous irez le voir. D'ailleurs, il fait des entrevues des fois. Il est assez pertinent. Puis il a l'air d'un gars de crypto, physiquement parlant. Puis là, bien, il est arrivé, ce qui arrive en Inde par rapport aux gens qui meurent, le nombre de cas qui explose, le manque d'oxygène, le manque de place dans les hôpitaux et tout. Puis il y a une fondation qui a été créée qui, eux, accepte des dons en crypto-monnaie pour aider la cause de l'Inde. Fait que là, Vitalik Buterin, il a dit, garde, moi, je donne, là, plus j'oublie les chiffres parce que je fais ça freestyle. Je donne exemple, il y avait, mettons, là, je sais pas, 100 milliards de Shiba Inu. Il a donné plusieurs, il a donné l'équivalent, là, plus je me trompe probablement, là, mais de quelques milliards de dollars de Shiba Inu à ce fonds-là. Puis moi, j'en avais déjà juste un petit peu avant ça parce que Vitalik Buterin, il avait eu la nouvelle que lui en avait. Donc, pertinemment, ça, on se disait que ça pourrait péter, c'est moins vraiment qu'il s'en sert. Puis là, vu qu'il en a tellement donné d'une shot, puis ça a tellement fait un gros mouvement dans le Shiba Inu, mais que le Shiba Inu, il a comme craché à cause de ça. Puis là, ben là, après ça, la semaine passée, tout a craché. Moi, je dis, ah, fuck off, Shiba Inu. Fait que là, je me suis débarrassé de ça. Mais en bref, là, il y avait comme de quoi de pertinent de pourquoi j'avais du Shiba Inu, qui est un autre véhicule spéculatif, un peu moins là, que le Doge. Il y a un certain protocole derrière. Mais ceci n'est pas un conseil financier. Vous faites bien ce que vous voulez. Crypto-monnaie, d'ailleurs, mais qui est un monde fascinant, qui est un monde que j'encourage les gens à avoir certaines connaissances. Est-ce que c'est le futur?
Plusieurs pays en parlent, puis je pense que ça va être intéressant de suivre le dossier parce que quand des gouvernements comme l'Iran parlent de peut-être l'utiliser eux-mêmes, c'est là que ça devient intéressant. Écoute, pour cette deuxième moitié, on va de chez le voisin, on va quand même passer à autre chose. T'avais une nouvelle. Ben, tu sais, je suis allé dans le touristique avec le Mont Everest. J'essaie de faire un lien. Quoi d'autre est relativement haut dans le monde? La Tour Eiffel.
Haut et touristique.
Haut et touristique, voilà.
La Tour Eiffel. La Tour Eiffel qui est évocatrice d'un futur rapproché. Certaines activités qui nous semblaient tant acquises puis qui nous ont été enlevées à cause de la pandémie, mais qui vont tranquillement redevenir accessibles après quoi 15 mois. Puis là, ben, on parle de la Tour Eiffel, mais on parle de ça en même temps que présentement, François Legault est en train de faire une conférence qui dit qu'est-ce qui va se passer par rapport au déconfinement la semaine prochaine. Parce que là, on sait que les restrictions s'allègent en France. Puis un des signes les plus significatifs, c'est la réouverture de la structure iconique, la Tour Eiffel, le 26 juillet. Puis elle a fait cette annonce sur son Twitter. Donc, si vous avez Twitter et que vous ne followez pas la Tour Eiffel, shame on you, allez follower. Elle a d'ailleurs posté un beau selfie d'elle-même, la Tour Eiffel, une belle photo. Elle va réouvrir le 26 juillet parce que en France, le couvre-feu a été repoussé à 21h. Les terrasses, les cafés, les bars réouvrent les terrasses, j'ai bien dit. Les terrasses des cafés, des bars et des restaurants peuvent rouvrir depuis la semaine passée. Puis elle va accepter 10 000 visiteurs quotidiens versus 25 000. Puis elle est fermée depuis le deuxième confinement en France, donc depuis octobre. Puis les pertes financières, mais ça ne s'inscrit pas uniquement sur les bilans financiers des entreprises, ça s'inscrit pareillement pour les bilans financiers de la fameuse Tour Eiffel. Puis il est estimé que les pertes d'opérations de 2020-2021 sont de 120 millions de dollars pour la Tour Eiffel. Ça reste que j'ai pas de comparatif à savoir c'est à quoi ressemblent normalement les bénéfices d'exploitation de la Tour Eiffel, mais je sais que 120 millions, c'est un gros montant d'argent. 26 juillet, je t'invite à y aller, d'ailleurs, à l'ouverture, Max, c'est dans le coin.
Ben, moi, je vais être dans le coin, peut-être pas 26 juillet, mais je vais être proche, tu sais, je veux dire fin août, moi, en passant, c'est comme une annonce un peu précoce, mais fin août, malheureusement, ça se peut qu'on arrête notre émission, où on verra ce qui va se passer si on fait quelques émissions spéciales, tu sais, toi ici, moi au téléphone, à la limite, directement de Belgique. Je vais être en France probablement pour l'arrivée ou quelque chose comme
ma
ça,
parole.
Mais ça va être difficile, tu sais, avec le coronavirus, si je veux aller en Belgique, c'est sûr qu'au début, il va falloir que je fasse ma quarantaine là-bas et ainsi de suite, fait que on verra, mais la Tour Eiffel va être un peu moins loin que si j'étais à Québec, effectivement, donc je verrai si je vais voir comment ça, de quoi ça a l'air la Tour Eiffel après plus d'un an de fermeture. Mais effectivement, c'est ce retour à la normale qui fait toujours du bien de ce côté-là.
Puis là, ben, vu que tu gardes les auditeurs en haleine, la Belgique, c'est pour combien de temps?
C'est pour une session. C'est-à-dire qu'une session universitaire, c'est quoi? 3 mois. Attends. Septembre, octobre, novembre, 4 mois. 4 mois, wow. Donc là-bas directement.
Puis là, tu vas faire ta maîtrise.
C'est-à-dire,
à partir
oui, bon, si vous vous en rappelez, moi, je fais une maîtrise en journalisme international. Puis après un an, c'est donc tout un volet international. Ça fait qu'une session à l'étranger en Europe, puis une autre session, c'est un stage à l'étranger. Ça fait que ça risque t'sais, peut-être être en Afrique, peut-être Moyen-Orient, je verrai où je m'en vais, mais ça va pas être ici, ça c'est sûr. T'sais, fait que pendant un an, je serai pas là, on verra comment on s'arrange pour l'émission, ça c'est sûr, ça se peut que ça va être un peu différent, moins souvent, je sais pas comment ça va s'arranger, mais bon, c'est une annonce un peu à la va-vite comme ça. Là.
Puis la question que tout le monde se pose, est-ce que la Belgique était un choix ou est-ce que ça a été par défaut?
Oui, non, il y en a pour qui c'était par défaut, puis là je me sens un peu mal pour mes trois collègues qui sont avec moi en Belgique, qui eux, bon, ont des origines françaises, ont un passeport français et donc ils n'ont pas eu le choix d'aller en Belgique parce que pour que ça soit considéré international, ils ne pouvaient pas aller en France. Donc moi, je suis le seul un peu nono à la limite qui a dit « Ben non, moi, Belgique, ici, pas la France. J'avais le choix entre Lille ou Paris. Puis moi, je m'en vais à Louvain-la-Neuve que personne connaît. » Donc voilà. Puis c'est justement parce que personne connaît ça puis que c'est un peu différent que je me dis « Ben, ça va être d'autant plus international si personne connaît le nom. »
Ben, regarde, donc, voilà. tu vas être notre correspondant
à Louvain-la-Neuve.
En Europe. Tu vas gouverner, tu vas rayonner sur toute l'Europe, man.
Je sais pas si à Louvain-la-Neuve, je vais trouver quelque chose d'intéressant à dire, mais en Belgique, certainement qu'il va y avoir quelque chose.
Il y a toujours une enquête intéressante à faire. Là.
Voilà. Pour se relancer un peu sur. Ça restait international, juste qu'on va retourner dans l'actualité. Seb, on a une nouvelle commune cette semaine, puis c'est quand même une grosse nouvelle. On parlait de journalisme, ben moi, niveau un peu plus académique, mais journalisme à l'international, il s'est passé quelque chose d'assez grave cette semaine. Le détournement d'un avion par nul autre que M. Loukachenko, président, entre guillemets, biélorusse, parce que je dis entre guillemets, c'est considéré la Biélorussie comme la dernière dictature d'Europe. On le sait que, bon, il y a des partis, tu sais, en Hongrie et tout, ils sont plutôt semi-démocratiques, mais la Biélorussie, c'est vraiment comme la dictature restante d'Europe. Tu sais, à côté, on a la Lituanie, Lettonie, Estonie, toutes des anciennes républiques soviétiques qui, eux, se sont relativement bien sortis de cette ère post-soviétique, puis qui sont des bonnes démocraties, surtout la Lituanie, là, qui sert un peu d'exemple dans la région, puis qui a une frontière commune avec la Biélorussie. C'est tout le contraire, hein, Biélorussie, vraiment, Loukachenko, qui a une main mise sur le pays depuis presque tout le temps. Et là, comme de fait, détournement d'avion carrément, on appelle ça un hijacking en anglais, c'est tout du moins ce dont on a qualifié l'événement du côté européen, là, l'Union européenne et même la Grande-Bretagne qui a qualifié ça de hijacking, un avion qui, apparemment, il y aurait eu une bombe à l'intérieur. On aurait eu un texte du côté des Biélorusses comme quoi il y avait une bombe. Donc, l'avion qui d'une compagnie Ryanair qui n'a pas du tout rapport avec la Biélorussie. Je ne sais pas si tu te rappelles, ça vient d'où, Ryanair? Je n'ai pas vraiment d'indice là-dessus.
Ryanair, c'est européen?
C'est européen, mais de quel pays, je ne m'en rappelle jamais. Ou est-ce que c'est une collaboration européenne? Des fois, il y a ça. Mais...
Ben, on dirait que moi, Ryanair, on m'aurait posé la question avant que j'entende que c'était européen. J'aurais quand même eu tendance à penser que c'était genre arabe. Mais je veux dire, assurément que je me trompe, là, parce que je sais que...
Irlandaise,
bon, voilà. Fait que, voilà, là, j'ai plus rien à dire.
Ben, je suis allé chercher en attendant, tu t'as servi de coussin. Mais bref, ça faisait une liaison entre Grèce et Lituanie, donc cette fameuse démocratie dont je vous parlais. Et ils sont passés par le fameux territoire de M. Loukachenko. Et dans cet avion-là, il y avait qui? Il y avait un opposant, un journaliste qui était opposant au régime, qui a participé à des manifestations, qui aurait organisé des manifestations, et ainsi de suite. Et vous le savez, Loukachenko, à l'image de Poutine, mais surtout ces temps-ci avec, bon, les manifestations, les opposants qui se sont exilés, qui ont été arrêtés et tout, suite au vote très peu démocratique qui a vu réélire encore une fois Loukachenko sans aucune surprise, mais là, le monde sont sortis dans les rues massivement. Il y a eu plein de répression de ce côté-là des autorités face aux opposants puis aux manifestants. Et là, ben, il y a un jeune monsieur. On va vous faire son portrait après, fait que je le laisse un peu dans l'ombre pour l'instant. C'est pas ça qui va m'intéresser directement, mais donc, qui a été arrêté suite au détournement d'avion. Donc, on a dit, ben, il y a une bombe. On fait atterrir l'avion en Biélorussie. Puis, ben, hein, comme de fait, à l'atterrissage, il y a des forces policières biélorusses qui rentrent dans l'avion, qui vont chercher le journaliste, clac, ils s'en vont, pas de bombe finalement. Ah, fausse alerte. Mais tu sais, clairement, on a vite compris qu'il n'y en avait jamais eu de bombe. Ce qu'on voulait, c'était le journaliste à l'intérieur, journaliste qui a comparu puis qui a fait une annonce publique comme quoi il avait participé. Bref, probablement, tu sais, on lui a dit, ben, si tu fais pas ça, on va te faire pire, mettons, là. Fait que c'est un drôle de dossier, mais l'annonce de la bombe, on a dit, ben, tu sais, il y a des tensions en ce moment entre le Hamas, ou plutôt la région palestinienne et Israël, des roquettes qui ont été lancées normalement par le Hamas. Le cessez-le-feu entre Israël et la Palestine, ben, ça s'est fait aussi avec le Hamas, donc qui est un parti politique, mais qui a aussi une branche armée. Bref, le Hamas, qui est considéré par plusieurs comme un groupe terroriste, pas juste comme un groupe politique. Et là, ben, la Biélorussie a peut-être un peu sauté sur la trend israélienne puis a dit « Ah, le Hamas avait une bombe là-dessus, on avait un texte à regarder, on devait arrêter l'avion, on pouvait pas le laisser aller. » Puis on en a profité pour ramasser le journaliste, deux en un, une belle affaire, comme on dit. Puis le Hamas, tu sais, vous pensez que ben, le Hamas était un peu occupé avec les bombardements de la bande de Gaza et tout. Le Hamas a quand même trouvé le temps de réécrire à M. Loukachenko puis de dire « Ben, ça n'a pas rapport à votre affaire. On a d'autres choses à fouetter. Nous, on n'a jamais eu de lien avec cette alerte-là à la bombe. On n'a jamais menacé de mettre une bombe. On n'a jamais mis une bombe. On n'a même jamais écrit ce fameux texte-là qui avait une bombe à l'intérieur. Je ne sais pas d'où c'est que vous allez chercher ça, mais on n'a rien à voir là-dedans. » Fait que même quand le Hamas te ridiculise devant la communauté internationale, t'as l'air d'un bon gros deux de pique, mais je présume qu'à la Biélorussie, on n'a pas grand-chose à faire parce qu'au final, là, ils l'ont eu, leur opposant. Fait que, tu sais, ils vont avoir des sanctions, puis il y a eu des sanctions qui ont été annoncées du côté de la Grande-Bretagne, du côté de l'Union européenne et tout. Le Hamas fait passer les autorités biélorusses pour des deux de pique, vraiment pour des amateurs, carrément. Tu sais, je veux dire, ben non, nous, on s'occupe des Israéliens. On a d'autres choses à faire que mettre des bombes dans un avion qui passe au-dessus de la Biélorussie, là. Fait que calmez-vous. Puis, tu sais, à la fin de la journée, c'est drôle de voir le Hamas qui... Tu sais, le Hamas, c'est pas considéré comme la force politique internationale de premier plan, là, mais tu sais, quand même, eux s'impliquent dans le dossier puis te font passer pour un genre de détective à l'inspecteur Gadget, pas très professionnel, là. Ouais, t'as l'air de quoi après ça? Mais ben, eux, j'ai comme l'impression que même après cette humiliation-là du Hamas, ben, je pense qu'ils s'en foutent un peu parce que, ben, t'avais préparé ça, puis moi aussi. Fait que je vais te laisser commencer. Mais c'est Roman Protasevich, ce fameux journaliste qui a été arrêté, journaliste qui est relativement jeune en plus, un opposant biélorusse qui, vous l'avez compris, n'était plus en Biélorussie depuis un temps, et on a profité du passage de l'avion au-dessus de l'espace aérien biélorusse pour l'intercepter. C'est carrément un chasseur qui est allé escorter l'avion. On a dit j'ai entendu l'extrait entre le pilote puis le chasseur, puis c'est carrément le pilote qui est comme complètement confus, qui dit ça vient d'où cette instruction-là et tout, puis le pilote qui fait bien comprendre ça vient de nous. Ouais, c'est comme non, il y a rien d'autre, c'est nous qui donnons l'ordre, tu descends.
C'est vraiment capoté comme histoire. Moi, ça me fait penser un peu au Alex Navalny biélorusse, là, tu sais, je veux dire, c'est-à-dire qu'ils ont un petit peu le même profil, si je peux me permettre. Tu sais, le gars, il a 26 ans, là. Il est jeune, là. Puis là, ben, ce qui se passe, c'est que lui était, par rapport au KGB de la Biélorussie, il était quand même classé comme terroriste. Fait que ça, c'est-à-dire qu'au même niveau que les membres de l'État islamique. Puis là, ben, ce qui a peur, ce jeune homme-là, ce journaliste-là, c'est que en Biélorussie, ils ont encore la peine de mort. Là, lui, ben, il retourne. D'ailleurs, c'est le dernier des pays européens qui a la peine de mort, là, je veux dire. Puis lui, ben, il redoute de faire face à cette peine de mort-là. Puis, bon, qui est-il? Ben, c'est-à-dire que à 26 ans, c'est un opposant biélorusse. C'est l'ancien rédacteur en chef de l'influente plateforme d'opposition Nexta, qui s'est fait beaucoup traquer par le président Alexander Loukachenko dans la réélection frauduleuse. On peut dire que c'est une réélection frauduleuse qui a eu lieu en 9 août 2020. Puis d'ailleurs, on l'a beaucoup couvert, là. Ça avait déclenché un soulèvement populaire vraiment sans précédent. Puis à l'automne 2020, la chaîne Nexta, qui était pilotée à partir de Varsovie, était disponible sur l'application Telegram. Puis c'était devenu un outil incontournable pour les protestataires qui l'utilisent en marche pour organiser les manifestations contre le gouvernement puis diffuser des images violentes parce que Telegram, c'est crypté. Fait que vu que c'est une messagerie cryptée un peu comme WhatsApp, puis on sait que à travers toutes les manifestations qu'il y a eu dans les dernières années, les manifestants se servent beaucoup des réseaux sociaux et des plateformes comme Telegram et comme WhatsApp pour s'organiser. Fait que le jeune Protasevich, qui n'a pas un nom facile, il est né en 95, le 5 mai. D'ailleurs, qui est juste un an après l'arrivée au pouvoir de Loukachenko. Là, c'est capoté, Loukachenko. Il est au pouvoir depuis 1994. Je présume que la plupart de nos auditeurs n'étaient pas nés, voire très jeunes.
Ce jeune-là, est un produit de l'ère Loukachenko. Il n'a connu rien d'autre que le président Loukachenko à la tête du pays. Là. Son pouvoir est plus vieux que le journaliste en question.
Ben, je présume qu'une bonne partie de la population a uniquement... Faudrait que je vois un peu la démographie de la population, là, mais probablement qu'une bonne partie de la population a uniquement connu Loukachenko. Là. Puis, donc, lui, il milite dès qu'il est un adolescent dans l'opposition. Ses premières manifestations, ça remonte en 2010, fait qu'il avait 16 ans. À l'époque, il y a déjà des milliers de Biélorusses qui étaient descendus pour protester contre la réélection de l'autocrate Loukachenko à ce temps-là. Fait que ça fait, c'est pas la première fois qu'il se fait faire des manifestations, là, puis qui ont été pareillement violemment réprimés. Il avait été arrêté, il avait été battu à plusieurs reprises, il avait été menacé de se faire accuser de des meurtres qui étaient non élucidés. Après ça, il a travaillé comme photographe pour différents médias biélorusses. En 2007, d'ailleurs, il y a eu la bourse Vaclav Havel pour aspirant journaliste indépendant. Depuis qu'il est parti de Nexta, il est rédacteur en chef de la chaîne BGM qui a 260 000 abonnés. Puis, fait à noter, c'est que sa compagne, Sofia Sapeja, a été arrêtée pareillement avec lui dimanche. Puis, elle, c'est une étudiante en droit à l'Université européenne des sciences humaines de Vilnius. Puis, présentement, bien, il est accusé d'avoir organisé des émeutes de masse, des actions portant gravement atteinte à l'ordre public, des incitations inimitées sociales. Je ne sais pas trop du coup le mot. Avec Roman, procès de service, il encourt 15 ans de prison. S'il est accusé puis reconnu coupable de terrorisme, il risque la peine de mort. Puis comme j'ai mentionné tantôt, c'est le dernier pays d'Europe où est-ce que la peine de mort est appliquée. Puis là, ben, tu peux te demander par rapport à ça, est-ce que c'est pas du terrorisme d'État? Est-ce que c'est pas du terrorisme d'État qu'un avion européen d'une compagnie aérienne européenne qui fait la liaison en deux villes européennes soit intercepté par un chasseur biélorusse puis que eux autres sur des accusations complètement factices, puis c'est le modus operandi du Hamas, là, moindrement quelqu'un qui connaisse un peu le Hamas, puis là je suis pas un historien puis je peux pas remonter à l'air, mais tu sais eux autres ils se battent essentiellement contre les juifs là. Ils mettent pas des bombes dans des avions européens là qui ont complètement aucun rapport avec eux autres. Fait que là tu dis crime, tu sais c'est quoi que l'Union européenne peut faire par rapport à ça? On va mettre d'autres sanctions contre Alexander Loukachenko, qui a déjà des sanctions contre lui. On sait que la Biélorussie est supportée par son grand frère, Vladimir Poutine, la Russie. Fait que là, on parle d'empêcher l'aviation biélorusse de survoler n'importe quel pays européen, donc de fermer l'espace aérien. On parle pourquoi ça va être des sanctions économiques. Je veux dire, ils sont déjà à côté de sanctions, la Biélorussie, à cause des manifestations qu'ils ont eues. Puis, tu sais, aller faire un petit retour dans les médias, voir les manifestations qu'ils ont eues, qui ont été déclenchées après l'élection de Hu, puis, tu sais, ça n'avait aucun bon sens. Là, je veux dire, tu sais, si les sanctions qu'il y a eu par rapport à ces manifestations-là, le nombre d'emprisonnements, les gens qui disparaissent, les journalistes capturés, je veux dire, les gens battus, ça a été quand même assez bien documenté. Puis au final, il ne s'est rien passé. Loukachenko est encore assis dans son trône. Fait que là, ben, tu te demandes crime par rapport à ça. Tu sais, l'ONU va faire quoi? L'Union européenne? L'Union européenne, c'est un drôle d'hasard, mais ils sont en réunion présentement. Ils étaient en réunion hier, puis aujourd'hui, je m'abuse, ou c'était lundi, puis ouais, hier, puis aujourd'hui. Là, face à ça, je veux dire, c'est quoi les solutions? Tu sais, ça a comme aucun bon sens qu'un pays puisse faire, puis je le répète, du terrorisme d'État. Tu sais, c'est comme si on avait un blogueur qui faisait une liaison, je sais pas moi, de l'Alberta qui s'en allait au Texas, puis t'avais un chasseur américain, c'est agressif, un chasseur américain qui se pointe là, tu sais, puis qui détourne l'avion. Fait que je veux dire, on va vous suivre, on va vous tenir au courant de ce qui se passe. Est-ce que les pressions internationales vont avoir raison? Parce que ça a été condamné par, évidemment, à travers le globe. Là. Je sais pas d'ailleurs si le Canada a fait une réponse à ça. Mais en tout cas, j'espère. Là. Je pense que n'importe quel pays là, démocratique devrait avoir une réponse à ça. Fait que à suivre sur ce dossier, dossier assez triste.
Oui, puis j'ai regardé la définition entre-temps. Là, un hijacking, c'est, je sais pas si c'est terrorisme, mais c'est définitivement criminel dans la définition commune. Là, c'est un acte criminel slash illégal de capturer donc un avion, un véhicule, un bateau pendant qu'il est en transit. Donc, tu sais, je veux dire, c'est définitivement criminel ce que vient de faire, tu sais, je veux dire, les autorités biélorusses et donc par intermédiaire, M. Loukachenko. Puis les sanctions sont un peu par rapport à ça. C'est pas tant d'arrêter le dissident, que de commettre un acte illégal sous prétexte que tu es une autorité gouvernementale. Ça ne te donne pas de légitimité de faire ça, c'est complètement illégal. L'Union européenne désapprouve complètement. Puis les sanctions sont surtout axées sur ça. On n'a pas tant parlé. T'sais, on dit que c'est justement c'est dommage qu'il est capturé, mais le fait, c'est que tu as besoin de faire ça pour capturer ton opposant. Là. C'est clairement pas légitime. Puis ça affecte, je veux dire, le transport aérien international. Ça affecte la confiance des voyageurs. Ça affecte la confiance des Européens en général, tu sais. Fait que, ben, les sanctions sont surtout là-dessus. C'est un peu dommage qu'on parle pas plus du journaliste. On parle carrément du hijacking et tout. C'est pas... Dans ma tête, tu sais, de wannabe futur journaliste, tu sais, c'est un peu dommage que c'est parce que t'es un journaliste puis que tu critiques le gouvernement que tu te fais arrêter. Mais bon, d'une manière diplomatique, c'est plus simple de sanctionner sur un hijacking qui est hautement criminalisé là, dans tous les pays européens.
Puis ça peut créer un précédent vraiment très dommageable. Tu sais, un précédent que, tu sais, comme tu le mentionnes, pour des gens qui aspirent à être journalistes ou pour des gens qui aspirent à la liberté d'expression puis à pouvoir dire qu'est-ce qu'il y en est. Que là, savoir que tu peux prendre l'avion, puis que, je veux dire, il peut avoir un chasseur qui vient te chercher, puis je veux dire, tu sais. Fait que, puis tu sais, d'ailleurs, on a vu, je sais pas si tu te souviens, assurément que oui, là, de Svetlana Tsikhanouskaya, qui était l'opposante.
Ben, qui est en Lituanie, justement, exact. Je présume que, tu sais, plusieurs manifestations.
Elle a réagi assez fortement sur différentes plateformes, notamment sur Twitter, parce que elle, c'est une femme qui a dû se sauver, parce que c'était l'opposante, puis selon plusieurs, la gagnante de l'élection qui a eu lieu, ou du moins la gagnante d'une vraie élection qui aurait pu avoir lieu. Parce qu'évidemment, vous comprendrez bien que si Loukachenko prend des mesures aussi graves qu'il a pris là par rapport à des dissidents, mais vous comprenez bien que par rapport à une opposante, est rendue en Lituanie, mais j'aurais tendance à dire que ce n'est pas son choix personnel de s'être rendue en Lituanie. Elle s'est faite menacer assez fortement que, hey, si tu restes ici... tu vas peut-être disparaître ta famille aussi.
Elle serait restée avec ses partisans, ses amis, sa famille et tout dans son propre pays. Tu sais, c'est chez toi carrément, mais quand t'es forcé de partir, t'es forcé de partir, puis c'est un choix tout à fait légitime. Puis j'ai la carte sous les yeux là, pour clore là-dessus. Là. Les sanctions sont déjà arrivées, puis la carte des mouvements aériens en Europe, là, c'est fou, il y a carrément un trou au-dessus de la Biélorussie. Il n'y a plus un avion commercial qui passe dans l'espace aérien biélorusse. Il y a carrément un vide à cet espace-là. C'est juste écrit Biélorussie. Tous les avions vont partout. Il y en a qui continuent à aller à Moscou, mais Biélorussie, pas un chat. C'est ridicule comment...
Mais c'est fou parce que ça porte tellement atteinte à tes citoyens. Imagine que tu es un Biélorusse super sympathique puis que tu habites à, je sais pas moi, à Paris, puis là, tu veux aller en Biélorussie. C'est quoi? Il faut que tu ailles dans un pays limitrophe puis que tu traverses en char.
Est-ce que c'est ça, la personne à blâmer, est-ce que c'est vraiment les compagnies aériennes? Est-ce que c'est vraiment les gouvernements européens ou c'est pas Loukachenko qui vient te tirer dans le pied?
C'est Loukachenko, là. C'est action-réaction. S'il n'avait pas ordonné cette affaire-là, on n'en serait pas là. Mais tu sais, clairement que tu vois comment que c'est un autocrate débile, Loukachenko. Il pense pas. Lui, c'est citoyen. Là. Je peux pas mettre de mots vulgaires, mais c'est citoyen. Il n'y en a rien à foutre de ces citoyens. Là. Lui, il veut juste rester au pouvoir. Puis là, il le garde. Lui, là, il a écrit contre moi, il a organisé une manifestation. Envoie le F-15 dans les airs, puis descends-moi là. Puis peu importe ce qui arrive par rapport à l'Union européenne, moi, j'ai mon grand frère Poutine qui me back. Là. Bref.
Ça, c'est vrai qu'il y a encore beaucoup de support de Poutine. Je te propose de finir rapidement avec deux nouvelles, une de moi, une de toi. Je vais y aller directement avec, tu sais, c'est juste très rapide, mais on a vu des stratégies assez loufoques du côté des États-Unis pour proposer des vaccins, tu sais, dans le métro, sur les plages de Miami, des loteries carrément qui étaient offertes, c'est-à-dire que si tu te fais vacciner, tu as une chance de gagner des millions de dollars. À New York, on se rappelle, des millions et des milliers, il y a comme des prix secondaires. Et cette fois, c'est la Maison-Blanche qui team up carrément, c'est les termes qui sont utilisés, mais bon, qui font équipe avec des applications que vous connaissez bien, Tinder, OkCupid, Hinge, je pense, et ainsi de suite. Donc, les applications te rencontrent. Bien, vous pouvez matcher avec un vaccin. C'est-à-dire que, bon, il y a plusieurs informations qui sont offertes là-dessus, des incitatifs qui sont offerts sur les plateformes directement pour bien vous encourager à aller vous faire vacciner. Donc, c'est assez intéressant, ce partenariat-là qu'on n'aurait pas vu. Tu sais, je veux dire, d'habitude, quand tu vas sur Tinder et tout, c'est plus pour ton prochain One Night ou quelque chose comme ça que plus t'informer sur le vaccin de la COVID. Mais écoute, pourquoi pas, justement, ça va rejoindre des gens qui, autrement, n'auraient peut-être pas regardé ça. Puis écoute, si ça mène à 2-3 personnes de plus, ben ça va être 2-3 personnes qui vont participer à l'immunisation collective. Fait qu'une autre affaire qui coûte pas tant que ça, tu sais, d'essayer. Puis dans la situation où on est, c'est juste drôle de voir ça rajouté, tu sais, à des loteries puis à des petites affaires comme ça. Fait que très hâte de voir. Moi, j'ai hâte de voir le bilan de tout ça, tu sais, les investissements par rapport à ceux qui vont, tu sais, avoir accédé à ces moyens de vaccination-là, tu sais, par la suite. Est-ce que ça va avoir vraiment mené à quelque chose? Je sais pas si on va avoir des chiffres aussi, mais je veux dire, c'est loufoque, on voit pas ça ici, puis je me dis, ben, pourquoi pas? Ça serait drôle de voir ça, tu sais, tu swipes à droite, à droite, à droite, puis tout d'un coup, t'as un vaccin, puis tu dis, ah, oh, OK.
C'est, à droite, c'est tu genre, tu m'intéresses?
À droite, c'est tu m'intéresses. Puis toi, Seb, c'est à droite, Seb.
Puis à gauche, puis à gauche, c'est...
À gauche, c'est si tu swipes gauche le vaccin, c'est probablement que tu veux pas ton vaccin.
Ah, OK, bon.
C'est ça. Fait que je te laisse terminer oui, cette émission-là.
Je swipe rapidement à droite pour le vaccin. Ouais, ben regarde, rapidement, moi, tout, je suis aux États-Unis, puis ça fait un peu une boucle par rapport à certains sujets qu'on a parlé. Le sénateur Bernie Sanders qui a présenté jeudi dernier une résolution pour tenter de bloquer une vente d'armes à Israël. Vente d'armes qui se chiffre à 735 millions de dollars. Ça a peu de chances de passer parce qu'il faudrait que ça soit approuvé par 51 démocrates au Sénat. Puis on sait que c'est pas tous les démocrates qui sont pour une mesure comme ça. Mais ça reste quand même que ça ouvre un débat. Ça ouvre le simple débat que les États-Unis sont très pour la désescalade, sont pour le dialogue, sont pour l'appel au calme. Anthony Blinken, d'ailleurs, le secrétaire d'État, est présentement aujourd'hui allé rencontrer Benjamin Netanyahu. Puis on sait que la semaine passée, Anthony Blinken, lui, a parlé que la seule manière de résoudre ce conflit-là, c'est une solution à deux États. Bref, un autre sujet. Mais ça reste que c'est un peu ironique qu'un pays qui appelle au calme et tout, à un moment où est-ce que des bombes fabriquées aux États-Unis dévastent Gaza. Fait qu'évidemment, Bernie Sanders est cohérent comme il l'est assez souvent en voulant bloquer la vente d'armes. Parce que tu peux pas difficilement dire que tu es pour... que t'es pour une désescalade quand en arrière, quand sur le rond du fond, toi, tu vends des armes à Israël. Tu sais, au même principe que tu peux pas dire que t'es, ah, la guerre au Yémen est si terrible, mais hey, l'Arabie Saoudite, check bien, on vend plein de milliards de dollars.
Le même combat, autre contexte, fameuse. Est-ce qu'on vend des armes à ceux qui font du mal? Bonne question. Puis est-ce que ça réglerait le problème complètement? Non. Est-ce que c'est une partie de solution? Peut-être. C'est là que le débat est intéressant. Sur ce, ben, on vous revient la semaine prochaine. On va essayer d'être aussi feel good, mais regardez, c'est vrai que ça fait du bien, je dirais, des nouvelles qui sont un peu moins morbides une fois de temps en temps. Sur ce, on espère que vous allez être là dans 7 jours. Nous, on va vous retrouver sans faute. D'ici là, restez à l'écoute de Chiz 94.3 pour plus d'infos et plus de musique. Ciao tout le monde.
Vous écoutez Chiz 94.3 FM à Québec. Toi aussi, t'as une galette qui a marqué ton imaginaire et que tu réécoutes systématiquement? Eh bien, tu risques d'aimer mon disque est plus scratché que le tien. À chaque lundi, 11h, j'accueillerai un ou une invitée qui nous parlera de son album incontournable.
Laisse tourner le vinyle qu'on pense à toute cette merde, man. Laisse tourner le vinyle qu'on oublie toute cette merde. Je dis laisse tourner le vinyle qu'on pense à toute cette merde, man. Laisse tourner le vinyle qu'on oublie toute cette merde.
Ceci est un message de Gabriel Tremblay, plombier et créateur de contenu semi-officiel de Chiz 94.3.
Vous ou un proche vivez avec une perte de vision? Peu importe.